rabbi sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Bonjour et bienvenue à tous sur Ronde Eiffel, la radio 100% lycéenne. Je suis Alexis, élève de terminale, je serai votre présentateur aujourd'hui. Vous pourrez nous écouter en direct jusqu'à vendredi après-midi. Tout de suite, Lucas et Hugo, élèves de terminale chaudronnerie, vont nous parler de leur chef-d'œuvre, puis intervieweront Monsieur l'évêque.
Bonjour Alexis, je m'appelle Hugo et avec Lucas nous allons vous parler de notre chef-d'œuvre de terminale. Nous sommes en terminale TCI qui signifie technicien en chaudronnerie industrielle, ce qui consiste à travailler l'acier pour l'industrie, par exemple des cuves, de la tuyauterie, toutes sortes d'objets. Notre chef-d'œuvre que nous avons commencé est le masque d'un diable.
Bonjour, je m'appelle Lucas et je vais vous raconter rapidement les différentes étapes et difficultés que nous avons rencontrées. Premièrement, nous avons créé un gabarit en papier à l'échelle 1. Ensuite, nous avons tout retracé sur SolidWorks. Après plusieurs vérifications, nous avons commencé la découpe, à l'aide de la machine découpe jet d'eau. Après la découpe, nous avons passé quelques temps à tout ébavurer. Après, nous sommes passés au pliage des pièces découpées. Nous avons réglé la machine avec l'angle des plis récupérés sur le gabarit en papier.
Après le pliage, nous avons commencé à pointer avec un poste à souder TIG. Après avoir tout pointé, il faudra faire des cordons de soudure tout en faisant attention à la déformation avec la chaleur. Après, on commencera les finitions, donc le meulage, le ponçage, la peinture.
Et tout de suite, on écoute un morceau de Led Zeppelin et ensuite nous poserons quelques questions à Monsieur l'évêque.
she turned to gold. The Prince of Peace embraced the goon and walked the night alone.
Doesn't the dark of night seem to him more?
Dark Lord rides in force tonight, and time will tell us more.
Nous venons d'écouter Led Zeppelin, comme promis, Hugo et Lucas, et leur invité, Monsieur Lévesque.
Alors, avant de commencer, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Bonjour, je suis Bruno Lévesque, graveur à la main, graveur à Tours. Je suis installé en Touraine depuis 1985. Et donc, j'ai réussi à former tous mes collaborateurs, parce que il est difficile de trouver des écoles pour former des graveurs à la main.
Et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier ?
Eh bien, je souhaitais initialement, à peu près à vos âges, faire de l'ébénisterie. Donc, je me suis présenté à l'école Boulle, j'ai passé le concours, qui à l'époque, on était 600 à se présenter pour 60 places. Concours essentiellement basé sur le dessin. Donc, j'ai été reçu la première fois, ce qui n'est pas courant. Et ensuite, on a fait le tour de tous les ateliers de l'école. Et contrairement à ce qu'on imagine, il y a beaucoup plus de métiers du métal à l'école Boulle que de métiers du bois. Donc, nous étions sur 60-30 à vouloir faire de la marqueterie et de l'ébénisterie. Donc, évidemment, il n'y avait pas assez de place. Donc, en faisant le tour des ateliers, nous avons fait un choix. Donc, chacun a numéroté les ateliers qu'il préférait, de 1 à 10, par exemple. Et donc, évidemment, mon premier choix n'a pas été retenu. Donc, j'ai été orienté vers la gravure à la main. Et il s'est avéré que c'est ce qui me correspondait le mieux.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ?
Ce que j'aime dans ce métier, c'est personnaliser, donner une âme aux objets qui me sont confiés. Savoir que vous avez un objet standard. Et l'intérêt de mon métier, c'est de pouvoir lui apporter la touche qui vous correspond. Je suis un interprète, en fait.
Est-ce que ce métier a un rapport avec la chaudronnerie ?
Directement non, parce que c'est un métier d'art. La chaudronnerie est un métier industriel. Le seul lien éloigné qu'il pourrait y avoir, c'est effectivement le terme d'orfèvre, à savoir qu'au Moyen-Âge, l'orfèvre faisait des pièces de A à Z, de la plaque jusqu'à la décoration. Ensuite, les métiers se sont spécialisés. Donc il y a l'orfèvre qui aujourd'hui fabrique les objets un petit peu comme vous, les chaudronniers, mais avec des métaux précieux. Et ensuite, on a tout ce qui est soudure faite par d'autres monteurs en bronze, par exemple. Et ensuite, les finitions qui sont faites par des polisseurs et les ornements par des ciseleurs et des graveurs. Donc, c'est très éloigné de la section industrielle.
Merci pour vos réponses. On se retrouve juste après pour continuer l'interview. Et tout de suite, un titre de Aerosmith.
There's always undercover and a torch.
Nous venons actuellement d'écouter Aerosmith. Tout de suite, la suite de l'interview de Monsieur Lévesque avec Lucas et Hugo.
Donc, depuis quand faites-vous ce métier ?
Oula, ça va me faire vieillir. Hein. Donc, j'ai commencé à l'école en 76. Je me suis installé à Tours en 85. Donc, j'avais 23 ans. Okay.
Quelles études ou parcours avez-vous fait pour en arriver là ?
Ben, c'était assez bref, on va dire. J'ai pas fait des très très grandes études. J'ai fait ensuite, après la troisième, j'ai passé ce fameux concours à l'école Boulle, qui était à l'époque en 4 ans, la formation de 4 ans pour avoir un diplôme de l'école Boulle. Et j'ai fait une année supplémentaire de perfectionnement, de professionnalisation, comme il disait. On n'était que deux avec mon meilleur ami à faire cette spécialisation qui était tout à fait novatrice à l'époque. À savoir que je ne faisais que de l'atelier pour pouvoir ensuite me lancer dans la vie active.
Avez-vous une entreprise ou un atelier personnel ?
Oui, j'ai une entreprise. En 85, je me suis installé à la suite d'un graveur qui était parti à la retraite, M. Luisard, qui était meilleur ouvrier de France en 1968. Donc son atelier faisait 4 mètres carrés 40, comme j'aime à dire. J'écartais les bras et je touchais les murs. Donc, comme je travaillais pas trop mal, j'ai commencé avec 10 clients, professionnels essentiellement. Et là, j'ai un fichier de 300 clients professionnels et quelques milliers de clients particuliers. Mais je ne travaille plus tout seul, nous sommes 7.
Avez-vous fait le concours des meilleurs ouvriers de France ?
Oui, je me suis lancé dans l'aventure en 2000 pour le concours de 2004, que j'ai obtenu aussi du premier coup.
Et avec quel type de pièces l'avez-vous remporté ?
Alors, ma spécialité, c'est graveur héraldiste. Ça veut dire que je grave des blasons sur des chevaliers. Donc, des blasons sont les armoiries de famille. Hein. Donc, le sujet était libre, j'avais juste la description du travail à faire sur un format de 3 cm par 3 cm gravé en creux et un dessin de 15 cm par 15 cm. Donc on faisait en premier le dessin le plus propre possible. Je l'ai fait au départ à la main sur du crayon, en crayon et papier. Et ensuite, pour ne pas faire graveur trop ringard, je suis passé directement à l'informatique, donc sur Illustrator et Photoshop. Donc j'ai tout mis en valeur sur Photoshop.
Et
après,
combien...
après quoi, j'ai réduit ce dessin de 15 cm par 15 cm, au format 3 cm par 3 cm, à l'exacte copie, de façon à ce que l'empreinte qui sera faite de ma gravure soit le reflet exact de mon dessin de 15 cm par 15 cm.
D'accord. Combien de temps pour fabriquer cette pièce, du coup ?
Beaucoup d'années d'expérience, donc là, ça ne se compte pas trop. Donc, j'ai mis 2 ans à faire la recherche, évidemment, pas tous les jours. Et la gravure, je l'ai faite sur 6 mois.
D'accord. Merci pour vos réponses et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Merci à vous aussi, bonne continuation.
Merci. I push my fingers into my eyes. It's the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take. Together or separate the skin from bone, leave me all the pieces, then you can leave me alone.
Radio 100% lycéen.
Radio 100% lycéen, la radio des jeunes de la région Centre-Val de Loire, en direct, en audio et en vidéo sur yeps.fr.
Vous êtes en direct sur Radio FL. Maintenant, on écoute Humour à Tours.
Nous sommes Malone,
Loïc,
Arthur
et Martin.
Nous sommes en terminale Bac Pro EDPI, études et définitions de produits industriels, donc c'est du dessin 3D sur ordinateur, et nous allons vous présenter notre émission sur l'humour, et pour cela, nous serons accompagnés d'un humoriste. Mais tout d'abord, un petit point historique sur l'humour. Comment est-elle apparue et sous quelle forme ?
Alors, l'histoire de l'humour. L'histoire de l'humour est complexe et remonte à l'Antiquité. Dans les sociétés anciennes, l'humour était souvent utilisé pour critiquer ou dénoncer les injustices ou les comportements inacceptables de manière indirecte, de sorte que les personnes visées ne se sentaient pas menacées. L'humour a également été utilisé pour divertir et distraire les gens, ainsi que pour résoudre des conflits ou établir des liens sociaux.
Au fil des siècles, de nombreux grands humoristes ont émergé, chacun apportant sa propre approche de l'humour. Parmi les plus célèbres, on peut citer Plaude et Aristophane dans l'Antiquité, William Shakespeare ou au Moyen-Âge, Charlie Chaplin et George Carlin au XXe siècle. L'humour a également connu de nombreuses évolutions au cours de l'histoire. En fonction des changements culturels et sociaux, aujourd'hui il existe de nombreux styles d'humour différents, allant de l'humour absurde à l'humour politique, en passant par l'humour noir ou l'humour surréaliste. Musique, maestro. Oh.
Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras. Et moi je suis toujours là, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, le crétin qui voudra m'enterrer. Je fais plus les télés, j'ai même pas internet. Arrêtez de parler aux radios, aux gazettes. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Dit à ces trous du cul, je continue de chanter. Et puis tous ces chasseurs de primes, paparazzi en embuscade, qui me dépriment et qui n'impriment que des ragots, que des salades. Toutes ces rumeurs sur ma santé, on va pas en faire une affaire. Et que celui qui n'a jamais titubé me jette la première pierre. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, l'idiot qui voudrait me remplacer. Je dois tout le temps faire gaffe, derrière chaque buisson, à tous ces photographes qui vous prennent pour des cons. Ceux-là m'ont enterré, un peu prématuré, dites à ces enfoirés, je continue de chanter. Je ne vous ai jamais oublié, et pour ceux à qui j'ai manqué, vous les fidèles, je reviens vous dire merci. Vous m'avez manqué, vous aussi. Trop content de vous retrouver. Je veux continuer, nom de nom, continuer à écrire et à chanter. Chanter pour tous les sauvageons, toujours vivants. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pané ou mal barré, le crouillon qui voudra m'enterrer. Depuis quelques années, je me suis éloigné. Je vis près des lavandes, sous les oliviers. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Ces trous du cul peuvent continuer de baver. Moi sur mon petit chemin, je continue de chanter.
We'll be right back.
toujours en direct sur Radio FL. Maintenant, Humour à Tours va téléphoner à l'humoriste Léandre.
Alors, bonjour Léandre, je te laisse te présenter.
Bonjour à tous, je m'appelle Léandre Villemaine, donc artiste du coup Léandre, j'ai 19 ans. Je suis humoriste, j'ai commencé l'humour à 16 ans en intégrant une école d'humour qui s'appelle l'EHS, l'école de l'humour et des arts scéniques à Paris. Et maintenant, ça fait 3 ans que je fais du stand-up sur Paris, voilà.
D'accord. J'ai une première question pour toi. Comment as-tu décidé de devenir humoriste et quelle a été ta principale inspiration ?
Alors, comment j'ai décidé de devenir humoriste ? Je pense que ma principale inspiration, c'est un peu... j'ai eu la chance d'être dans une famille où on allait voir des pièces de théâtre, du cinéma et la culture en général. Et ma source d'inspiration, elle est venue un peu de tout ce dont je me nourrissais, de tout ce dont je pouvais me nourrir. Et j'ai oublié un bout de la question, je crois.
Comment as-tu décidé de devenir humoriste, du coup ?
Ah oui, bah, ensuite, ça a suivi de manière assez logique dans mon esprit. Et oui, par rapport à ce que je pouvais faire, j'ai très simplement dit que je voulais faire ça. Et comme j'ai la chance d'avoir des parents à l'écoute et un entourage très bienveillant... J'ai tout de suite eu la chance de pouvoir regarder les écoles, comment on pouvait devenir ce que je voyais à la télé, quoi.
D'accord. Du coup, tu es allé dans une école spécialisée dans l'humour, comme tu nous l'as dit. Est-ce que tu peux nous répéter le nom, s'il te plaît ?
Exactement. Ça s'appelle l'EHS, l'école de l'humour et des arts scéniques Paris 11e.
D'accord. Quels sont les thèmes qui te tiennent à cœur et que tu abordes dans ton humour ?
Il y a beaucoup de thèmes qui me tiennent à cœur. Je parle beaucoup des différences de l'homophobie, de la grossophobie. Dans mon spectacle, je parle aussi de mon rapport à l'homosexualité, à ce que c'est d'être un homme, à tout ça. Je dirais qu'il y a beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur et j'essaie de me renseigner au maximum pour être légitime à en parler devant des gens.
D'accord, parfait. Quels sont les défis auxquels tu es confronté lorsque tu écris de l'humour ?
Les défis auxquels je suis confronté quand j'écris de l'humour, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ok, les défis auxquels je suis confronté. Bah déjà, comme je viens de le dire, se renseigner. Je pense que avoir la prétention de monter devant un public, faire une demande sur une scène et d'être devant un public et de parler, il faut au moins un minimum savoir de quoi on parle et se renseigner sur ces sujets. Donc ouais, c'est ça, les défis, c'est ouvrir des livres, aller regarder sur internet, aller voir des pièces de théâtre, tout ce qui peut me nourrir, et ensuite et surtout essayer d'appliquer des règles qu'on m'a apprises. En humour, il y a des règles de 3, par exemple, qui sont des techniques de blague qui m'ont beaucoup aidé au début pour écrire justement de l'humour.
D'accord, donc ça, on t'enseigne ça dans l'école où tu as été.
Exactement, où je suis, on nous enseigne des techniques de base toutes bêtes. Par exemple, là, j'ai pris l'exemple de la règle de 3. C'est on prend 3 choses, 2 qui sont identiques ou qui sont du même champ lexical, et quelque chose qui est. Et la troisième chose n'est pas pareille et ça crée un petit décalage, c'est rigolo. On rigole tous, voilà.
D'accord. Est-ce que tu as des humoristes qui t'ont influencé ?
Ouais, carrément. Au début, j'ai... Moi, je suis du coup né en 2003 et j'ai grandi en voyant à la télé Kev Adams. Donc, c'est lui ma première forme d'humour que j'ai vue et que j'ai trouvé trop stylé, incroyable incroyable. Et ensuite, derrière, du coup, je me suis... enseigné. Mon père avait une cassette de Gad Elmaleh que j'ai regardée, une cassette, waouh, je suis en 2003, non, un CD, pardon, et ensuite j'ai grandi, j'ai appris qu'il y avait d'autres humoristes avant, les Likaku, les Coluche, tout ça, et aujourd'hui, je dirais qu'en France, mes sources d'inspiration sont les Roman Frassinet, Panayotis et Ken Kojandi qui m'inspirent beaucoup, et aux États-Unis, tous les Louis C.K., les Dave Chappelle et etc. sont aussi des modèles incroyables.
Ok. Est-ce que t'as quelque chose qui te rend unique et qui te démarque vraiment des autres humoristes ? Ou t'es similaire aux autres ou, ou pas?
Mais il y a énormément aujourd'hui d'humoristes. J'ai eu la chance de faire le festival d'Avignon l'année dernière, et c'est un énorme festival où il y a des tonnes et des tonnes de spectacles. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'étais assez effrayé. Ça peut paraître effrayant de, aujourd'hui à Paris, il y a beaucoup d'humoristes, et de pouvoir trouver sa place. Et je pense que la meilleure manière de pouvoir trouver sa place, c'est d'être soi-même. Alors c'est un gros mot et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ne pas essayer de ressembler à quelque chose qu'on aime, mais plus être soi-même et développer ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et c'est ce que nous apprend l'école que j'ai fait, le HS. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu as un sujet en particulier qui te fait le plus rire?
Ouais, il y a ça aussi. On nous apprend beaucoup que déjà dans l'absolu, il n'y a rien qui est drôle en soi. C'est le point de vue qu'on pose sur une situation qui va rendre la situation rigolote. Mais dans l'absolu, il n'y a rien qui est marrant. Et dans l'humour, il y a un peu cette... je sais pas vraiment si c'est une règle, mais c'est plus facile de rigoler des choses. On va plus se moquer de quelqu'un sur scène à qui il est arrivé des péripéties ou quoi, parce que on rigole plus des losers magnifiques, un peu à la Jim Carrey ou autre.
D'accord. Comment tu travailles sur ton timing pour faire tes blagues afin de rendre ton humour plus drôle, c'est-à-dire comment tu cales tes blagues par rapport à ton sketch?
Ouais, ça a été longtemps, c'est encore un travail que je fais aujourd'hui carrément. C'est on va plus parler de musicalité, je pense, en humour. Il y a un peu ce truc de tu peux avoir la meilleure blague à l'écrit possible, si tu sais pas la vendre, elle va pas être drôle. Et à l'inverse, tu peux avoir une blague qui sur le papier est moyenne voire nulle, et si tu la vends bien, elle devient absolument incroyable. Donc plus une musicalité, et c'est ça qui est aussi magnifique, en même temps traître avec les blagues, c'est que une blague se tient vraiment à une virgule ou à un silence que tu laisses ou non. Donc c'est ça qui est hyper intéressant et excitant à faire et à découvrir à chaque fois.
Ok. Quelles sont les réactions du public que tu apprécies le plus lorsque tu fais de l'humour en direct? Tu préfères qu'il y ait des interactions, juste du rire?
Au début, j'aimais bien quand les gens riaient, parce que j'avais le sentiment, d'une part, d'être validé à travers leur rire, et d'une autre, de me sentir aimé. Ouais, tout simplement. Je pense que j'ai commencé la scène de manière assez égocentrique et égoïste, en voulant juste monter sur scène pour que les gens m'aiment et me voient et me trouvent drôle et beau. Et je me suis très vite rendu compte que ce moteur-là pouvait pas marcher. Donc aujourd'hui, je suis plus satisfait quand je raconte une histoire et quand je sens dans leur regard qu'ils sont avec moi, ou alors quand quelqu'un réagit ou quoi. Ou ouais, j'aime bien ça, j'aime bien sentir qu'ils sont à fond avec moi, et ça passe pas que par le rire, mais par des esclaffements, des trucs, enfin ouais, les réactions, j'aime bien.
D'accord, ça marche. Je te remercie, je vais laisser mon collègue Malone te poser les questions suivantes.
Ok, très bien, merci beaucoup.
Alors, as-tu des projets en cours pour développer ta carrière?
Bonjour, Malone, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Bonjour. Oui, est-ce que j'ai des projets en cours pour développer ma carrière? Ouais, actuellement là, des projets en cours. On nous apprend aussi un petit peu qu'à l'ère d'aujourd'hui, être juste humoriste, c'est compliqué. Être juste, en l'occurrence, moi je fais du stand-up, être juste sur scène, stand-upper, c'est compliqué. Donc pour aujourd'hui, pour développer sa carrière, et je pense au-delà de ça, pas que en tant que humoriste, il faut passer par les réseaux sociaux, internet, etc. Donc j'ai écrit une série que je tourne et que j'adore jouer avec un ami à moi humoriste qui s'appelle Jules Pelgrims, qui s'appelle Scooter Écouteur. Et c'est vrai que c'est une autre forme d'écriture et une approche différente, c'est un travail d'équipe à deux, etc. Et c'est intéressant à faire et à produire, oui. Donc c'est la manière que j'ai trouvée pour essayer de booster ma carrière, par rapport à la question là, c'est ça, voilà.
Ok. Connais-tu personnellement de grands humoristes?
Personnellement, non, pas du tout. J'ai beaucoup de copains que je trouve très forts et est extrêmement respectable dans ce milieu-là, mais j'ai eu la chance de croiser dans les comédie clubs et autres théâtres des humoristes qui sont incroyables et que je trouve très forts, mais j'ai jamais eu la... Non, je ne connais pas personnellement de grands humoristes. Non.
D'accord. As-tu déjà joué dans des grandes comédies comme à Montreux ?
Non, alors j'ai déjà fait, je sais pas combien j'ai fait de place la salle de Montreux. J'ai un copain qui l'a fait cette année, Adèle Fougazi, qui a son passage au Montreux et c'est qui est incroyable. Montreux aujourd'hui c'est clairement une vitrine folle pour les humoristes et c'est une vraie chance de pouvoir le faire. J'ai jamais pu jouer encore à Montreux, mais j'ai eu la chance de faire des festivals et de jouer dans des salles trop cool de 800, 500 places en province et à Paris récemment. J'ai joué au République en faisant la première partie de Marty Thomas, un copain d'un copain humoriste et c'est incroyable. Donc ouais, non, là, j'ai eu la chance de jouer dans des grandes salles, mais pas à Montreux, non.
D'accord. Alors, comment fais-tu pour être bien compris sur scène, par exemple pour l'articulation ? Prends-tu des cours pour ça ?
Ouais, ça a été longtemps un gros problème, moi, que j'ai. Je trouve, mais même dans mes amis de mon âge, de notre génération, on a moins... comme tout va très vite aujourd'hui, notre parole et notre débit de parole suit, je pense, forcément cette cadence. Et du coup, on prend moins le temps, tout simplement, d'articuler. Et donc, ouais, ça a été longtemps un problème où je ne savais pas articuler, en fait. Du coup, j'ai dû travailler dessus dans l'école. Et oui, c'est sûr, c'est encore une fois... pour moi, on ne peut pas avoir la prétention de monter sur scène devant des gens. Et au-delà de ça, juste, j'ai écrit des choses, c'est pour que les gens les entendent et les comprennent. Si je ne sais pas articuler pour ça, c'est bête.
D'accord. Peux-tu être sûr que tes blagues vont bien fonctionner quand tu les écris ?
Je pense que plus j'écris, plus je me rends compte ou non de si celle-là peut plus marcher qu'une autre. Mais encore une fois, ce qui est excitant et intéressant là-dedans, c'est une loterie encore. C'est beaucoup le public qui décide si oui ou non c'est drôle. C'est un peu une loterie encore.
D'accord. Et pour finir, aurais-tu un conseil à donner pour des jeunes humoristes qui voudraient se lancer ?
Ouais, alors, moi aussi encore, actuellement, je suis un jeune humoriste qui se lance. Mais si je dois donner... si je peux avoir la prétention de donner un conseil ou au moins d'aiguiller, c'est moi je sais que j'ai commencé à 16 ans, j'ai fait une école parce que mes parents voulaient bien que je monte à Paris pour faire des blagues à 16 ans, mais ils voulaient que j'ai une structure. Donc intégrer une école, ça peut être une bonne idée, que ce soit une école de théâtre, une école d'humour, une école de cinéma, ce que tu veux, et ensuite y aller, ne pas avoir, même si c'est encore une fois beaucoup plus facile à dire qu'à faire, éviter de se juger et accepter. C'est ça qui est fou dans ce métier d'humoriste, c'est que le moment où c'est le plus dur, au début, c'est le moment où t'es le plus nul, encore une fois, au début. Et donc, voilà, je pense qu'il faut accepter d'être nul, de travailler, et que ça vient avec le temps, mais il faut déjà y aller et ne pas avoir peur du jugement, du regard des autres et tout. Il faut juste foncer et tout défoncer, quoi.
D'accord, merci Malone, merci Léandre. Je te remercie, on a fini pour les questions. Si tu veux, je te laisse faire ta pub pour ton Insta, pour Scooter Écouteur que tu nous as parlé juste avant.
Ouais, carrément, c'est adorable. Déjà, merci beaucoup à vous pour ces questions et j'espère avoir su y répondre de manière assez claire et précise. Ouais. Moi je l'ai dit, je m'appelle Léandre, je viens de Tours. J'ai créé une série qui s'appelle Scooter Écouteur. On a un Instagram où on poste les vidéos sur Instagram. Et un TikTok et un YouTube, et voilà, Scooter Écouteur. Et sinon, moi, sur Instagram, mon prénom, c'est Léandre, L-E-A-N-D-R, tiré du bas E. J'ai pas pu m'appeler Léandre tout court, mais voilà. Merci beaucoup encore une fois pour les questions et pour cette interview chaleureuse.
Pas de soucis. Voilà. Merci à toi. Au revoir.
Merci, au revoir. Très bonne fin de journée à vous.
Hiya, Bobby.
Hi, Ken.
You want to go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Bobby girl.
C'était Barbie Girl. Pardon, Barbie Girl. Vous nous écoutez sur yeps.fr. On continue avec Loïc et Arthur.
Je vais vous parler de l'évolution du stand-up. L'évolution du stand-up comedy a été marquée par plusieurs phases importantes au début. Le stand-up était principalement associé aux musiques de hall et aux variétés, où des humoristes racontaient des blagues pour divertir le public entre les numéros de musique et de danse. Au fil des ans, le stand-up est devenu plus populaire aux États-Unis et en Europe, avec des humoristes comme Bob Hope, Jack Benny, George Byrne et les frères Marx, qui ont tous contribué à la popularité du stand-up.
Alors moi, je vais vous parler des comiques les plus influents et les plus populaires dans l'histoire du stand-up. Donc, on peut citer George Carlin, Richard Pryor, Eddie Murphy, Hélène Degener, Chris Rock, Louis C.K., Kevin Hart, Gad Elmaleh, et plus récemment, Bill Durr, Dave Chappelle, Ali Wong et Hélène Degener.
Merci les gars. Bon après-midi à tous. On se retrouve demain à 9h30 pour de nouvelles aventures.
Say, 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 I.
Triumphantly, won't you help to send